Et bonsoir Paris, bienvenue dans le Paris Central Show. Aujourd'hui, on va parler du mercato du Paris Saint-Germain. On va parler également du chavissimage de Thiago Motta, de Faïza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. On va parler des jeunes, on va parler du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain est le futur menacé? Est-ce qu'on va avoir des années de galère devant nous? Merci de nous suivre. On est avec Dryas et avec Rico. Comment allez-vous, les gars?
Tranquille, tranquille.
Ça va, impeccable. Salut à tous.
Alors, il y a une piste qui est sortie, je crois que c'était hier ou avant-hier, concernant le défenseur de Naples, Kim Min-jae. J'espère que je prononce bien son nom. Il a 26 ans. Il fait 1m90. Il est originaire de la Corée du Sud. C'est un joueur qui était à Fenerbahçe, qui est maintenant à Naples, qui est dans une défense à 2 ou à 3, qui est droitier, mais peut jouer à gauche. Il est grand, il est rapide, il est fort, il est flexible. On le compare à O Monstro, Thiago Silva, mais en version asiatique, je ne sais pas pourquoi. Il a une grande capacité d'anticipation, il est agressif, il aime attaquer les attaques adverses. Il se projette. Franchement, tout ce que j'entends sur le joueur est très très bien. Il a une adaptation très rapide à Naples. Dès son mois d'octobre, ça fait 2 mois qu'il était là, il a été élu meilleur joueur de Serie A. Et si on parle de tout ça, c'est parce qu'il a une clause à 53 millions pendant 15 jours cet été. Et toute l'Europe pense que c'est une offre à ne pas rater. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je te laisse commencer, Dryas.
J'ai vu un tout petit peu Naples cette saison. Je n'ai pas vu énormément. Alors, il est peut-être droitier, mais il a joué toute la saison quasi à gauche, je crois. C'est un joueur qui est notable pour son explosivité. Au-delà de sa vitesse, il a une explosivité sur les 10 premiers mètres. C'est difficile pour les attaquants de le prendre de vitesse, justement. Après, tu vois, par exemple, au niveau des montées, il en fait quelques-unes, mais c'est plus en mode Ibrahima Konaté que ou pas Mécano. Je ne l'ai pas vu faire 25 montées dans le match. Pareil, c'est transversal, c'est pas les transversales d'un Pau Torres, parce que je pensais que tu allais poser la question par rapport aux deux. J'aurais aimé répondre par rapport aux deux, parce que quand tu dis lui ou Pau Torres, moi j'aimerais bien te répondre lui et Pau Torres, parce qu'avec lui et Pau Torres, tu couvres tout. Pau Torres, c'est vraiment le libéro, quoi. C'est le mec qui est fait pour jouer central dans une défense à 3. Et lui, c'est vraiment le stopper moderne. Pour moi, le joueur auquel il me fait le plus penser, c'est Ibrahima Konaté. Et je pense que si tu as le choix entre Pau Torres ou Minja, ça dépend du coach. Si tu as un coach, Pau Torres, sur le moyen terme, te permettra peut-être de mieux jouer au foot. Mais Minja, il arrive, c'est un package complet. C'est un mec, il est excellent. Enfin, le nombre d'interceptions qu'il fait face à des tirs, ses jaillissements sur les attaquants adverses, ses sorties, il est physique, il est rapide. C'est du tout bon. C'est du tout bon. Il n'a pas l'élégance, il n'a pas le cachet d'un Pau Torres. Et ce qui serait délicieux, c'est d'aligner les deux. Maintenant, si tu peux en prendre qu'un en plus de Skriniar, tu prends lui, c'est une très bonne réponse. Et même si moi je préfère Pau Torres, mais je crois que si j'en prends qu'un, je le prends lui, parce qu'il est simple à intégrer. Tout de suite, tu le mets à gauche. C'est un poste qui a été régulièrement défaillant cette saison et il t'apportera tout de suite satisfaction.
Juste avant de passer à Rico, il y a ici c'est pareil qui nous dit que son écran est noir. J'espère que c'est que toi. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vas-y Rico, qu'est-ce que t'en penses toi?
Oh bah, je pense que vous avez un peu tout dit là, toutes ces qualités. Effectivement, ce qu'on peut rajouter, qu'a bien dit Dryas, c'est l'adaptation. Parce que le mec, il arrive de Turquie, première fois qu'il joue dans un championnat, un top championnat européen, il s'adapte tout de suite, meilleur joueur. Et c'est déjà un pion indéboulonnable au Napoli. En plus de ça, ils avaient refait toute leur défense. Donc, c'est pas comme s'il arrivait dans une défense et avec un milieu de terrain complet et tout. Et du coup, il avait vraiment juste à s'adapter facilement. Là, pour le coup, ils ont tout refait. Et pour autant, tu as l'impression qu'ils jouent ensemble depuis 10 ans. Donc, c'est bien pour ça que Kim Min-jae est un joueur qui s'adapte vraiment bien, incroyablement bien. Au PSG, il ferait le plus grand bien, ça c'est sûr. Maintenant, je pense qu'on a assez parlé de ses qualités, etc. Il n'y a rien à dire sur le joueur. Du coup, moi, je veux parler plus de la faisabilité. Et effectivement, la faisabilité, moi, personnellement, j'y crois pas trop, malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'il vienne, hein, évidemment. Mais le problème, c'est que faire péter une clause à 52-53 millions quand tu as une enveloppe à 80 en enlevant les 38 d'équitiqués, c'est un peu compliqué parce que quand tu pètes une clause, tu dois donner l'argent tout de suite. Tu n'as pas de facilité de paiement, des paiements échelonnés. Donc, tu dois les donner tout de suite. Et vu l'enveloppe qu'on a, sachant que derrière, tu veux recruter des milieux de terrain, plusieurs, des mecs devant, ça me paraît quand même compliqué. Et puis même côté Napoli, tu as déjà leurs deux stars de devant, tu en as sûrement une qui va partir. Est-ce qu'ils vont faire en plus partir leur meilleur défenseur? Ça me paraît quand même compliqué. Donc, il y a cette clause apparemment qui existe. Il paraît que son agent est hyper vénal et que du coup, bah, il veut absolument s'en mettre plein les poches. Ça peut être une opportunité, mais quand tu es le PSG aujourd'hui, bah, malheureusement, c'est compliqué. Et je pense qu'on va avoir une concurrence féroce avec les clubs de première ligue et que du coup, pour faire péter la clause, ça va être compliqué.
Je peux y aller, Nyx.
Ah, vas-y.
Bah, alors déjà, petit troll, enfin, toi, tu arrives à faire ce joueur à 53 millions par rapport à comment De Laurentiis se comporte en général quand il s'agit des transferts, ça ferait énormément plaisir, et notamment à nous, les tarifs qu'il nous a mis à de multiples reprises. Ce joueur, clairement, à 53 millions, c'est un tarif que tu mets à De Laurentiis. Comme toi, je ne suis pas sûr qu'elle existe, mais bon. Il est affirmé qu'elle est en place, et clairement c'est son agent qui a fait courir le bruit. Donc, même si ça paraît assez surréaliste, hein, c'est une clause qui n'est valable que pendant 2 semaines, et puis basta, c'est un peu bizarre, mais si son agent le dit, c'est qu'il y a sans doute quelque chose, quoi. Il y a sans doute quelque chose à aller chercher. Après, à voir. Maintenant, ben oui, t'as raison. En soi, t'as raison. Et t'aurais encore plus raison si moi, on était dans mon rêve. Et du coup, parce que quand j'ai vu les deux noms sur le plan que m'a envoyé Nyx, et j'ai vu Minjay et Potores, mais je me suis dit, toi, tu as Minjay, tu as Potores au centre, et tu mets Skriniar, voire Marquinhos de temps en temps à droite, ta défense, elle est refaite. Et puis même, t'as même pas besoin de... Enfin, t'as posé ta défense, en plus avec les deux mecs sur les côtés. Mais déjà, ça se simplifie un peu au milieu, même si au milieu, il faut recruter. Et effectivement, on ne pourrait pas faire ça parce que on doit recruter au milieu. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va récupérer un Milan Skriniar. Tu vois, spontanément, je mets Skriniar, mais parce que Marquis est là. Parce que dans quel état physique il est Skriniar? Parce que si tu as un Skriniar qui arrive, qui est au flanc toute la saison, tu vas te retrouver exactement dans le même problème. Ramos aura juste un an de plus. T'as Marquinhos, est-ce qu'il va vraiment se remettre à la tête à l'endroit? Tu ne peux pas refaire une saison. Kimpembe est-il encore au club? La question se pose. Combien de matchs il a joué cette saison? Kimpembe est un joueur qui, avec son morphotype, a peut-être tendance à développer plus de blessures. Je ne suis pas expert, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, c'est ce qui semble s'indiquer. Le mec, il a fait pas mal de matchs en jouant blessé, et là, il est en train de le payer. Est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau? Il y a énormément d'incertitudes le concernant. Je pense que Basto avait parfaitement raison en disant qu'il fallait absolument le vendre l'année dernière quand il y avait une hype dessus. On a vraiment loupé une opportunité. Et le truc, tu ne peux pas refaire une saison avec ton meilleur central qui est Danilo. J'ai beau apprécier Danilo, j'ai beau louer les immenses qualités de ce joueur, ça ne peut pas être ton meilleur joueur en centrale sur une saison. Ce n'est pas raisonnable de se dire ça. Et si on a un Skriniar qui arrive, qui est out pendant 6 mois, tu es obligé de recruter au moins un des deux derrière.
Bah, pour Kim ou pas Autores, je suis d'accord. Dans tous les cas, les deux en plus jouent à gauche. Et pour moi, il t'en faut au moins un des deux. Le plus simple et le moins cher, parce que Pau Torres, c'est un contrat qui finit en juin 2024. Donc, je pense que pour 15-20 millions, tu peux l'avoir. Dans tous les cas, je pense qu'il t'en faut un des deux, que tu prolonges Ramos ou pas. Après, à droite, c'est vrai que Skriniar, la question se pose. Mais à droite, tu peux encore avoir effectivement Marquinhos, que tu peux mettre soit au centre, soit à droite. Et tu peux avoir Mukiele aussi. Tu peux avoir Danilo aussi, qui peut compenser à droite, à gauche. Et puis, bah, si Ramos reste, il peut rester dans l'axe. Donc, si dans la défense actuelle, sans compter Kimpembe et en comptant Skriniar et soit Pau Torres, soit Kim, bah, je pense que tu es quand même plutôt bien, même si sûrement que Danilo va dépanner derrière.
Mais est-ce que tu es d'accord avec ça, que en fait, quand tu prends Pau Torres, tu rentres dans un jeu qui est beaucoup plus complexe, parce que Pau Torres est très bon dans les défenses en zone, mais c'est pas forcément un très bon défenseur sur l'homme. C'est un joueur avec lequel tu vas devoir créer des compensations dans ton animation défensive. Après, c'est un sublime joueur parce que c'est un quarterback comme on rêve tous d'en avoir. Mais ça demande un coach qui est autrement plus qualitatif, et en sachant que tu vas avoir un jeu qui sera posé avec plus de temps, parce que ça va demander plus de travail justement pour trouver tous ces réflexes de compensation qu'il va falloir mettre en place pour exploiter au mieux ce joueur. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il défend mal, hein. Au contraire, j'adore la manière avec laquelle il défend. C'est un défenseur en zone et on en a besoin. Pour moi, il joue dans une défense à deux à l'heure actuelle, mais pour moi, poste idéal, c'est central d'une défense à trois. Et j'adorerais l'avoir, mais il sera pas immédiatement, ça marchera pas tout de suite comme avec Minja. Alors c'est vrai que Minja c'est plus cher, mais par contre Minja, tu t'achètes une garantie. C'est genre le mec, en plus il l'a montré, tu l'as rappelé quand il est arrivé de Fenerbahçe pour venir au Napoli, il a été spot on tout de suite, quoi. Voilà.
Ouais, j'ai vu un commentaire passer sur le fait qu'il soit coréen et que du coup c'est un professionnel, mentalité exceptionnelle, guerrier, travailleur, etc. Ouais, c'est pas, c'est vrai que c'est un peu le cliché, on va dire, du Coréen, mais c'est réel. La preuve, s'ils s'adaptent aussi vite, c'est parce que c'est leur mentalité. Ils sont professionnels, pas de vagues, ils s'adaptent, ils travaillent, et bah, y a pas de secret, ils s'adaptent super vite. Et pour réagir sur Ndika, voilà, exactement, Fabien, Ndika, c'est jeune, 23 ans. Moi, personnellement, à titre personnel, sachant que tu mettrais de la, en faisant venir Kim ou Pau Torres, tu mettrais de la concurrence quand même côté gauche à Kimpembe qui reviendra de blessure normalement. Je pense qu'à Ndika en troisième choix à gauche, ça sert un petit peu à rien. Je le prendrai parce que
Surtout
c'est une
qu'il y a un Jedi, hein.
opportunité de marché. Par contre, je le prêterai dans la foulée, 23 ans, je laisse ça guérir un an de plus. Et puis l'année prochaine, je fais un choix entre Ndika et Kimpembe à l'été 2024.
Faut pas
Alors,
oublier El Shaddai par rapport
justement,
à
les gars, là, on va faire la. Parce qu'il n'y avait pas que le joueur de Naples, Kim Min-jae, qui était dans l'équation. Tout à l'heure, Dryas, tu as fait allusion à Pau Torres. Il y a aussi Gonçalo Inácio, qui a 21 ans, qui est titulaire au Sporting depuis 2 ans et demi. Mais justement, j'avais demandé à Alex, qui est notre correspondant sur le foot portugais, il nous disait qu'il n'est pas encore prêt pour le niveau international.
ça, ouais, il a fait une demi-saison, une saison un peu moyenne, même s'il a été très bon. Je crois que c'est à la Coupe du Monde, on l'a vu. Mais il a fait une saison assez moyenne et il n'est pas prêt, en fait. Il n'est juste pas prêt. C'est probablement un très bon pic, mais si tu veux, c'est les qualités de Minja en un peu moins, mais très très bon. Et c'est les qualités de Pau Torres en un peu moins, mais très très bon. Et c'est vraiment un joueur d'avenir, mais c'est un joueur que tu prends quand ta charnière est déjà en place. Et on est loin d'être dans ce cas-là.
C'est ça exactement. Déjà qu'il n'est pas prêt au Sporting, dans un club qui marche très bien, où il n'y a pas forcément de pression, avec une équipe qui se connaît, qui est jeune depuis un petit moment. Dans l'environnement Paris Saint-Germain, c'est clairement pas le joueur que tu dois prendre. C'est un peu comme Vitinha, vous voyez, tu vois qu'il est talentueux, mais tu vois qu'il est jeune, tu vois qu'il a du potentiel. Mais actuellement, dans un PSG pareil, c'est compliqué. Donc il va te sortir quelques bons matchs, mais tu vois que globalement, c'est un peu compliqué. Donc clairement, dans un PSG comme le nôtre, le profil idéal, c'est Kim. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir les mettre ces 50 millions directs? Je ne sais pas.
Et vite fait, je voulais réagir au message d'Apollon. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. On verra, en fait. C'est juste trop tôt pour le dire. El Shaddai, il faut pas oublier je sais plus s'il a 16 ou 17 ans. Enfin, il bat tous les
Je
records de
crois.
précocité. Surtout pour un poste comme celui-là. On voit des défenseurs éclore de plus en plus jeunes. Mais par exemple, on parle d'un Ignacio qui est vraiment clairement une des pépites à suivre. Et le Ignacio, il a 21 ans. El Shaddai, il en a 4 et demi de moins. Donc, faut lui laisser le temps et au contraire, faut justement le gérer. Faut lui laisser, par exemple, si tu es sur une charnière à 3, bah, qu'il soit le sixième ennemi homme, où il va sur la saison obtenir, je sais pas moi, dans les 800 minutes, quelque chose comme ça, sur une saison complète avec un peu moins en première partie de saison, parce que peut-être qu'il pourra. Et mine de rien, ça nous enlèverait une belle épine du pied si répondait présent.
Ou
Ok.
idéalement le prêter dans un club de Ligue 1, qui joue le
Oui, c'est
maintien,
une
quelque
chose.
chose comme ça, où il pourrait avoir du temps de jeu.
Mais pas sans séparer en tout cas.
Ok. Bah écoutez, on a fait le tour du sujet des défenseurs côté mercato. Il y a un dossier qui est plus ou moins important, c'est Xavi Simons, qui je crois que la clause pour le faire revenir est à 12 millions. Faudrait rajouter 4 millions de primes pour le joueur et 4 millions de primes pour son agent Pimenta. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous le faites revenir pour 20 millions ou vu l'état actuel des finances du Paris Saint-Germain, vous dites c'est un bon joueur, mais pour 20 millions, on passe. Qui veut commencer?
Bah, le problème de Simon, c'est que ce n'est qu'un bon joueur. En fait, si tu veux, tout le monde s'enflamme parce qu'il fait une saison extraordinaire en Hollande. Mais voilà, c'est en Hollande, dans un championnat où c'est plus limité. On l'a vu, bon, après, il n'est pas le seul responsable de la prestation de l'équipe de Hollande contre la France. Mais à part une passe qui était à peu près bien sentie, il n'a pas existé du match. C'est un joueur qui a des qualités. Et de toute façon, c'est un joueur qui est appréciable pour son sérieux, de son implication. Ça se voit depuis qu'il est jeune, au niveau de la muscu, il travaille avant les autres, il fait des efforts avant les autres, il se donne les moyens. Maintenant, on est tellement en chien délié que ça pourrait être une solution, mais ce serait vraiment, à mes yeux, la solution du pauvre. Ce serait vraiment la solution. C'est un bon joueur, mais je pense pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le voient monter très 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 haut. Peut-être, hein, je ne suis pas devin, mais moi, j'y crois pas. J'aimerais pas qu'on le fasse. Maintenant, peut-être que contraint par la réalité, le fait qu'on ait besoin d'un ailier, bah, mais par exemple, tu sais, on parle de Bernardo Silva. Enfin, c'est pas, voilà, tu vois, c'est.
Je suis un peu comme Drias, moi j'avoue, je suis un peu perplexe sur ce joueur. Il est talentueux, là il est en train d'éclore au PSV, mais ça reste le championnat des Pays-Bas. Et dans ce championnat, on le sait, les joueurs statent très facilement. voilà, le niveau des défenses, c'est voilà, c'est pas ça. C'est clairement, à part les 4-5 premiers de devant, le reste, c'est niveau Ligue 2, hein, soyons clairs. Donc, c'est délicat. J'ai du mal à le voir vraiment exploser, ce joueur. Il a des qualités indéniablement, mais est-ce qu'il est capable de faire monter le PSG, de faire passer un palier, d'être vraiment un joueur important? Je ne sais pas. Je pense qu'il va encore avoir besoin de temps. Donc, à la limite, si tu lèves la clause, il faudrait lui donner du temps de jeu. Donc, tu le mets sur le banc. Et si c'est un de tes premiers entrants, je pense que c'est plus intéressant quand même d'avoir un Xavi Simons plutôt qu'un Soler ou un Ekitike, quelque chose comme ça. En plus de ça, il a un gros abattage sur le terrain. Il ne rechigne pas à la tâche. Donc, c'est quand même bien de l'avoir dans ton dispositif. Si tu mets une tactique en place, c'est bien d'avoir un joueur comme ça. Ouais, j'ai du mal à voir si vraiment il peut atteindre ce potentiel qu'il a d'un gros niveau. Donc, soit tu le reprends pour qu'il soit ton premier sortie de banc, mais ce n'est pas forcément le meilleur joueur que tu puisses avoir en sortie de banc. En tout cas, ce n'est pas le banc digne d'un futur gagnant de la Ligue des Champions, je trouve. Soit tu le reprends et tu le prêtes dans la foulée.
C'est ce que proposait Laurent, ouais, mais dans ce cas-là, il faut que tu sois sûr qu'il vaille plus. Que la clause de rachat, et est-ce qu'on a l'argent pour. Bah, on n'en est pas sûr. Hein. S'il fait une belle saison encore à Rotterdam, est-ce que. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'il y avait non plus. Il y a cette espèce d'affection qu'on est supporté à Paris Saint-Germain pour ce joueur, mais on n'est pas dans une situation, alors qu'il a une situation contractuelle plutôt favorable, on n'est pas dans une situation, excusez-moi, où tous les clubs de première ligue sont en train de se l'arracher, quoi. On est dans une situation d'un bon joueur qui a sa place dans un 6-7e de championnat, mais il n'a jamais vraiment montré plus. Ce qu'on attend comme qualité chez les autres joueurs, savoir tout le temps faire des passes en avant, chez lui, ça devient un défaut parce qu'il ne sait faire que ça. Il y a des ajustements tactiques, tu te demandes s'il les fera un jour, etc. etc. C'est un joueur, peut-être qu'il deviendra ce que les gens espèrent, mais moi, j'y crois pas. Et si c'est pour l'acheter et que finalement, un an et demi après, bah, il vaille toujours 20 millions, ce qui est très probable, bah, tu auras juste dépensé 20 millions et tu auras juste entamé ton enveloppe pour rien.
Ouais, c'est compliqué. Du point de vue du PSG, c'est un peu compliqué. Et pour répondre à Apollon, du point de vue du joueur, effectivement, pour moi, il a aucun intérêt à revenir au PSG. Il est très bien aux Pays-Bas, au PSV. En plus de ça, il est quasiment titulaire aux Pays-Bas. En tout cas, il a sa chance. Donc, tout se passe bien pour lui. Autant continuer au moins un an là-bas et puis partir dans un an ou deux dans un meilleur club. Mais c'est vrai qu'au vu du temps de jeu que lui a donné le PSG, bon, après, s'il a des garanties, pourquoi pas, mais en tout cas, s'il n'a pas de garantie, pour moi, lui, il n'a aucun intérêt à revenir au PSG.
Ok, les gars. Bah, écoutez, on va passer à un autre sujet. Il y a eu des rumeurs cette semaine concernant Thiago Motta. Il y a un journaliste italien qui disait que Conte serait idéal pour le Paris Saint-Germain, mais que le PSG n'y pense pas et qu'il serait déjà en discussion avancée avec Thiago Motta. Donc ça, c'est une source italienne, donc on ne sait pas ce qu'elle vaut. Mais pour vous, par exemple, Thiago Motta, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment ou faut attendre qu'il prenne un club intermédiaire, par exemple, je sais pas, qu'il entraîne l'Inter, ou enfin l'Inter, club intermédiaire, j'abuse. qu'il aille entraîner, je sais pas, la S-Rome, un truc comme ça, et après qu'il vienne. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Darius.
Ok, d'accord. En fait, si tu veux, c'est si on était parfaitement structuré, si les rôles de chacun étaient clairs, c'est le genre de gamble que tu pourrais prendre et qui ferait sens et qui ont été faits et qui ont parfois été faits avec succès. On parle d'un joueur, mais d'un entraîneur qui connaît parfaitement le club, qui connaît parfaitement la direction, qui connaît le vestiaire, qui connaît les gens du vestiaire, qui sait sur quel relais s'appuyer à l'intérieur. Il connaît encore quelques joueurs qui jouent. Il y a une connivence qui est immédiate. Maintenant, il y a une prise de risque qui est monstrueuse. Tu vois, enfin, par exemple, c'est tout bête, hein, mais si tu compares avec un Amorim a beaucoup plus prouvé qu'un Thiago Motta. Et Amorim, on aimerait peut-être l'avoir, mais on se dit attention, faut pas se planter. C'est pas de la faute de Motta, je pense que c'est de la faute du club qui s'est pas construit assez de certitude dans son mode de fonctionnement pour se permettre ce genre de risque. Et en plus de ça, on est dans une période où on est vraiment malade, où on est vraiment en doute, où on n'a pas vu de bons matchs depuis trop longtemps. En tant que supporter, on est fatigué de tout le temps les mêmes, que la même litanie se reproduise année après année. Et donc, on a besoin d'un petit peu plus de certitude. Et je pense que ça passerait par un coach avec un peu plus de certitude. C'est une idée que je trouve sympa, mais.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Bah, tu vois, on avait l'exemple des défenseurs tout à l'heure où on disait que Ignacio, ça peut être sympa, mais le mieux, c'est de prendre un Kim qui peut s'adapter tout de suite, etc. Bah, pour moi, là, c'est la même chose avec les entraîneurs. Ça fait trop longtemps maintenant qu'on tente des coups, qu'on prend des entraîneurs qui ne sont pas super expérimentés, qui n'ont pas forcément gagné la Ligue des Champions, qui, voilà, ou qui sont bons tactiquement, mais qui n'ont jamais géré un grand vestiaire, un gros vestiaire. Donc pour moi, voilà, Thiago Motta, est déjà lui personnellement, je pense qu'il faut lui laisser encore du temps. Il gravit les échelons step by step. Il a commencé par les jeunes. Après, si je ne me trompe pas, c'était la Spezia ou un petit club en Italie. Ensuite de ça, hein, c'est Bologne. Voilà, step by step, ça se passe bien. En plus de ça, il a des bons résultats. Je pense qu'effectivement, il lui faut encore un club au-dessus, genre la Roma, la Lazio, ou peu importe, même l'Inter, un meilleur club. Lui, il connaît la maison, donc ça peut être bien. Avant de pouvoir le prendre au PSG. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, c'est trop tôt pour lui. Et en plus, effectivement, avec le cadre dans lequel il arriverait au PSG, pour moi, c'est clairement pas une bonne chose, ni pour nous, ni pour lui. Je pense qu'à un moment donné, pour le poste d'entraîneur, parce qu'on parlait tout à l'heure de Conte, mais Conte, à un moment donné, c'est aussi combien d'échecs en Ligue des Champions. C'est un très bon coach avec des bonnes idées, avec beaucoup de caractère qui pourrait vraiment tenir tête aux joueurs. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre un entraîneur qui ait gagné la Ligue des Champions, qui connaissent la recette, qui savent gérer des gros égos. Et voilà, il y en a qui vont être disponibles sur le marché, d'autres que tu pourras débaucher. Donc je pense que c'est plus sur ces profils-là qu'il faut tabler, tout simplement.
Ok. Autre chose qui s'est passée la semaine dernière, qui a été exposée par Daniel Riolo, il y a eu des écoutes téléphoniques concernant l'affaire Amraoui, ouais, l'histoire de Aminata Diallo, etc. Et où il y a notamment un message téléphonique de la mère de Kylian Mbappé qui dit, enfin qui dirait à l'agent en question qui est inculpé pour les histoires d'escroquerie et tout ça.
César
Que. Ah, t'as dit quoi?
C'est César M, je crois.
Ouais, c'est ça,
Ouais.
exactement. Et en fait, il y a un moment où il y a la mère de Mbappé qui dit à ce gars-là, justement, de ne pas s'inquiéter qu'elle fait ce qu'elle veut au Paris Saint-Germain. Je pense que ce n'est pas une très grande surprise pour nous, mais les gars, normalement, l'agent de joueur ou X. Et n'importe quel joueur ne devrait pas pouvoir faire ce qu'il veut au Paris Saint-Germain. Et cette affaire met en lumière que déjà chez les féminines, les agents, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais ça montre que c'est un peu un échantillon de ce qui se passe chez les hommes aussi. À mon avis, ça ne doit pas être que la seule qui fait ce qu'elle veut au Paris Saint-Germain. Et j'aimerais, comme d'habitude, on fait chaque fois, faire un parallèle avec les autres clubs pour savoir est-ce que ils feraient ce qu'ils veulent dans d'autres clubs. Je te laisse commencer, Rico.
Ouais, bah, je pense que c'est une surprise pour personne, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, que ce soit. Bon, maintenant j'apprends que c'est même chez les féminines, mais bon, ça ne me choque pas. De toute façon, je pense que QSI l'a assez montré, hein. Ils se mettent clairement en dessous des joueurs. Les joueurs sont plus importants que l'institution, mais que ce soit Mbappé ou Neymar ou Messi ou même les joueurs avant. Ouais, c'est compliqué. Ça a toujours été comme ça. Ça ne changera pas, je pense, tant qu'ils sont toujours là, de toute manière. Est-ce que ça se passe comme ça dans les autres clubs? Je ne pense pas. Il y a certains clubs quand même, je pense, où. Voilà, tu as des top joueurs, notamment Messi au Barça, où il faisait quand même un peu sa loi. Je pense à CR7 aussi au Real, même si le Real a su par moments se faire respecter. Bon, je pense qu'il faisait quand même un petit peu sa loi aussi. Malheureusement, c'est comme ça quand tu as des très très grands joueurs qui sont ultra importants et que tu as envie de garder. Malheureusement, tu es obligé un peu de perdre le pouvoir, en tout cas, ou peut-être de le partager. Maintenant, c'est au PSG, c'est monnaie courante, on le sait. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus?
Moi, j'ai pas vu à ce point-là jouer l'Eintracht Francfort, mais je sais pas exactement ce que vaut Glasner, mais bon, faudrait que je regarde peut-être. Je faisais référence à un commentaire de Laurent. Oui, après, il y a aussi une dimension, c'est une dimension architecturale, la manière avec laquelle est constitué le camp des loges, avec le fait que tout le monde puisse rentrer un peu comme il veut et y accéder beaucoup trop facilement. Il y a une partie de ces problèmes qui vont être réduits de manière significative structurellement une fois qu'on va arriver à Poissy. Il y a, comme tu l'as nommé, hein, on peut pas le nier, il y a la responsabilité immense des Qataris qui, avec ce rapport qui était peut-être nécessaire au début, comme tu l'as rappelé, mais qui s'est trop installé sur la durée de le truc que moi j'appelle la 36-15 Hotline Nasser, quoi, qui est un bon résumé, je trouve. Bon, voilà, à chaque coup, j'ai l'imaginaire qui défile, il faut que je le calme.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas.
Je croyais que c'était toi qui mettais du son.
Ah! Vous êtes des ouf!
D'accord.
Ah, ok, c'est bon, c'est réglé. T'as fini?
Non, mais j'étais un peu interrompu. Oui, et bah oui.
Vas-y,
ouais, mais c'est très perturbant sur la musique.
Mais attends, mais Nick, c'est pas toi là?
Comment ça, c'est pas moi?
Mais il y a une musique là.
C'est toi, sérieux?
Ouais, oui, c'est toi. Ah voilà.
Ah voilà. Oh, il est malade ce mec.
Ouais, voilà, mais donc ouais, il y a les responsabilités, elles sont à la fois structurelles et le PSG. Maintenant, sur l'affaire, a priori que Aminata Diallo ait rencontré peut-être trois fois et qu'elle ait essayé d'obtenir un contrat et qu'elle ait demandé et que Faisal Amari lui a répondu ouais, enfin, qu'est-ce que ça voulait dire son oui, etc., etc. Il y a moyen d'interpréter, il y a moyen de lier ça à l'affaire Amraoui, mais je pense que c'est... On en sait ou trop ou pas assez pour avoir un avis et j'ai pas forcément moins d'avis sur la question.
Bah écoute, Laurent, on en a justement parlé avec Riolo, je crois qu'on a échangé des mails hier. Et il nous a redirigé vers sa publiciste, donc on verra ce que ça donne. Concernant la musique d'attente, je suis désolé les gars, bah, en fait j'étais en train de vous mettre le lien pour ceux qui veulent participer à l'émission. Et en fait, du coup, si vous cliquez sur le lien, on pourra vous entendre. Les gens, vous pourrez laisser des messages ou rebondir sur ce qu'on était en train de dire. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en épinglé. Et au lieu d'entendre la musique, on va vous entendre vous. Donc c'était ça la musique. Désolé. Ok. Il y a une autre possibilité, un autre sujet qu'on devait aborder, ça concerne les jeunes. Chose qu'on a déjà fait au préalable avec Nkunku et Diaby qu'on a regretté ensuite. Le problème avec du mercato de cet été, c'est qu'on n'a qu'un budget de 45 millions si on réduit ce qu'on doit payer pour Ekitike. La dernière fois qu'on avait rencontré ce problème, on avait vendu Diaby et Nkunku. Est-ce que vous pensez que pour augmenter cette enveloppe, il faudrait vendre des jeunes cet été? On peut penser à El Shaddai. Si on est fou, on pourrait penser à Zaïre Emery. Si on peut penser à Pembele, on peut penser à Garbi. Est-ce que vous pensez qu'il faudra en vendre un ou deux, voire trois, pour pouvoir acheter des joueurs cet été?
Non, surtout pas. Surtout pas. Je pense qu'à un moment donné, ça y est, on a fait les erreurs qu'il fallait. On le paye aujourd'hui, puisque la plupart du temps, on veut rapatrier nos joueurs. Je pense qu'on rêve tous que des Diaby, des Nkunku soient au PSG aujourd'hui. Alors, au moment où ils sont partis, on pensait aussi pas non plus, il ne faut pas être hypocrite, qu'ils allaient atteindre ce niveau-là. Pareil pour Mike Maignan, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais il ne faut pas refaire l'histoire non plus. Mike Maignan avait beaucoup moins de potentiel qu'un Areola, il a mis beaucoup plus de temps à arriver à maturité. Il a fallu qu'il joue dans un Lille, déjà il était deuxième gardien, au final il a pu profiter de blessures, si je ne me trompe pas, ou de mauvaises performances pour pouvoir jouer, donc il ne faut pas refaire l'histoire non plus. Mais de là à refaire les mêmes erreurs, non, il ne faut pas non plus abuser. Donc non, évidemment, les prêter, oui, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de les vendre pour rien. Prête-les, tu vois au moins ce qu'ils puissent donner. Mais de là à les vendre, non, je pense qu'il y a énormément de joueurs déjà à vendre, que ce soit tous les indésirables, comme les Paredes, les Draxler et compagnie, qui vont tous revenir, ça, tu dois les vendre, et tu dois le faire déjà avant même que le mercato il ait commencé, que tu puisses déjà savoir où est-ce qu'ils vont atterrir. Comme ça, au moins, c'est fait, et tu n'as pas ces soucis qui traînent pendant tout le long du mercato, notamment si tu veux prendre un Kim les 15 premiers jours, et au moins, si tu peux vendre pour 30-40 millions ces indésirables, pardon, ça te permet d'avoir des liquidités pour le prendre. Et puis après, j'ai perdu le fil.
Tu parlais de Kim, avoir les liquidités pour l'acheter et donc avoir les liquidités pour vendre, et t'en étais là.
Et des coûts à faire comme par exemple Juan Bernat, parce que tu te libères un gros salaire et tu peux prendre un joueur libre. Voilà, tu as d'autres latéraux gauche qui sont disponibles. Tu peux vendre Juan Bernat pour 5-10 millions, ça te fait des liquidités pardon, en plus, ça te fait de la masse salariale aussi en moins. Te séparer des Messi, te séparer des Soler ou des Ruiz. Bref, tu as pas mal de moyens, des Renato Sanchez, tu as pas mal de moyens quand même de gagner de l'argent, de gagner en masse salariale. Donc de là à vendre d'abord les jeunes, pour moi, ce n'est pas du tout la première option et ce n'est pas du tout une option viable.
Je vais vite faire répondre à Vincent. Oui, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois on commence à développer une dette qui est assez colossale. C'est quand Vincent disait qu'on connaissait pas l'état des finances. Et c'est juste que à force, année après année, à force de développer une dette, tu peux avoir des problèmes avec des fair-play financiers. Et l'ensemble des rumeurs et des observateurs s'accordent à dire que l'enveloppe du Paris Saint-Germain sera limitée. Et par rapport à ça, et justement, tu as aussi l'interview de Nasser qui donne de sérieuses indications comme quoi c'est le cas. Justement, par rapport à ce que tu disais, Nick, c'est pas quelque chose qu'on devrait voir cette saison. Parce que Nasser a dit clairement en interview qu'il voulait vraiment s'appuyer sur les jeunes. C'est une manière de dire aussi qu'on n'a pas tant de thunes que ça pour recruter. Et oui, il faut arrêter de faire n'importe quoi, comme tu l'as très bien dit. Après, par exemple, tu vois, tu prends des éléments comme Garbi, tu prends des éléments comme Pembélé, tu sais qu'ils n'auront jamais vraiment le niveau pour être titulaires au club. Si tu as des offres intéressantes, pour ces joueurs, faut pas hésiter à les prendre. Je me souviens, bon, c'est lui qui avait vendu Nkunku pour le coup. Mais est-ce que Nkunku, s'il était resté à Paris, aurait développé la même carrière? On n'en est pas sûr, loin de là. Et c'était Henrique. Henrique aurait su te vendre du Pembélé sans problème, aurait su te vendre même du Garbi. Et à ce moment-là, faire ces billets-là, oui. Mais par contre, ceux qui sont prometteurs comme El Shaddai, qui sont promis à au moins avoir une valeur significative comme Zaïre Emery, ceux-là, comme dit Réco, soit tu les utilises dans ton temps de jeu pour les faire progresser, soit tu les fais progresser en les prêtant, mais tu ne les vends pas. Faut arrêter avec ça.
Mais je vois beaucoup de gens qui disent qu'entre guillemets, ils voudraient plus se vendre les indésirables ou les solaires, etc. Mais
Solaire.
les gars, franchement, on va pas en tirer. Vous avez déjà vu le Paris Saint-Germain vendre bien quelqu'un? Même si on vend solaire, on va le vendre quoi? 5 millions? Je pense même pas qu'ils vont réussir à le vendre plus de 5 millions. C'est impossible. La seule personne qui aura de la valeur, c'est soit un crack que t'as pas envie de te débarrasser, type Mbappé, Nuno Mendes ou Hakimi, soit ça va être les jeunes, tous les indésirables. Paredes, il va revenir. La Juve n'a pas voulu le prendre pour 20 millions. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce mec-là? Vous voulez le vendre à qui? Quand? On peut pas le vendre.
Faudrait demander à Simbad, il devrait savoir puisqu'il l'aime tant.
Bah, tu as des clubs qui peuvent acheter, tu as des clubs en Turquie, tu as des clubs en MLS, tu as des clubs de seconde zone qui peuvent mettre voilà, plus de budget sur la table, mais après le problème c'est avec le joueur, est-ce qu'il a envie de partir, etc. dans ce genre de championnat, dans ce genre de club-là, ça me paraît compliqué, c'est plus ça le problème. Et le souci c'est que bah, les grands clubs n'en veulent pas. Les clubs de seconde zone, de moyen tableau, n'ont pas forcément les finances pour payer les salaires qu'ils ont aussi. Parce que c'est ça aussi, ce n'est pas forcément le prix qui pose problème, mais des fois, c'est leur gros salaire. Paredes, on le sait, c'est son salaire qui pose problème surtout. Donc voilà, le problème, c'est que là, on a un combo salaire plus prix qui est compliqué pour les clubs qui sont intéressés, parce qu'il y a des clubs quand même qui sont intéressés par ce genre de joueurs partout en Europe. Et même ailleurs, mais le problème, c'est les finances de ces clubs-là. Clairement, les joueurs comme Draxler, Paredes et compagnie sont beaucoup trop chers, et donc c'est une galère pour les vendre.
Non, mais franchement, même 5 millions, il y a qui va acheter Draxler 5 millions pour de vrai?
Je voulais vite fait réagir à ce que dit Fabien. C'est vrai que niveau vente, on n'est pas bon. Il va nous falloir un sacré commercial. On l'avait, hein, le commercial. C'est Campos qui lui a préparé une planche savonneuse très glissante. Il s'appelait Enrique et il n'est plus vraiment au club, même s'il reste proche des Qataris.
Et c'était un très mauvais acheteur par contre, monsieur Kerrer, monsieur Diallo.
Ouais, mais il a plus que ça.
70 millions. 70 millions sur Kerrer et Diallo. Waouh, on est sur.
Kerrer, c'est Tourelle. Hein. Et Kerrer, Schalke a touché 17 millions et le reste, ça s'appelle la prime Tourelle. Mais c'est
Ouais,
un
puis pour
débat et
l'instant,
on va pas
Campos,
revenir
avec
dessus.
les achats qu'il a fait, n'a pas forcément prouvé mieux, mais bon, on va espérer cet été. En tout cas, il va falloir les vendre, ces indésirables, parce que j'ai vu passer dans le chat, effectivement, 5 millions plus 5 millions, ça fait, voilà, on est d'accord. Si tu arrives à tirer 5-10 millions de plusieurs joueurs, bah, mine de rien, ça peut te faire une enveloppe un peu plus conséquente. Et puis si tu arrives à te séparer de gros salaires comme Bernat, comme Messi, etc., bah, mine de rien, oui, on n'est pas dans Football Manager, en ajustant le truc, la petite jauge pour les salaires et le budget transfert, mais mine de rien, bah, ça te libère de la masse salariale et donc bah forcément tu es mieux au niveau de tes finances.
Ok, vous êtes 137, n'hésitez pas à liker le live. C'est pas que pour nous, c'est pour vous aussi. Faut, pour qu'on soit plus, pour qu'on soit plus dans l'équipe aussi. Parce que quand vous likez la vidéo, je vous explique, en fait, YouTube la partage. Donc en fait, ça fait plus de vues, plus d'abonnés, donc peut-être plus d'intervenants, plus de lives. Là, on essaie de faire 2 ou 3 lives par semaine, on peut en faire plus, qu'on sera plus, etc., etc. Autre chose, n'oubliez pas, je vous ai épinglé le lien si vous voulez participer à l'émission. On va essayer de clôturer avant 23h. Si vous voulez intervenir, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et on vous écoutera et on participera à l'émission. Ok. Dernier sujet, on va parler du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est le futur Milan AC? C'est-à-dire, est-ce que c'est un club qui était plus ou moins au très haut niveau et qui va avoir des années très sombres à venir? Et peut-être qu'il va revenir dans peut-être une décennie. Est-ce que pour vous, on se dirige vers ça ou il y a encore possibilité de rattraper le coche? Vas-y, Dries.
Milan était, enfin, si on avait le palmarès de Milan, j'en serais content. Hein. On est loin du palmarès de Milan. Ceci dit, une fois qu'on dit ça, bah, c'est une vraie question. Au-delà du Milan AC, c'est toute la trajectoire de l'Italie en ce moment, quoi. Elle pose question. Est-ce que la France va suivre cette trajectoire-là d'une manière générale, indépendamment du Paris Saint-Germain, ou est-ce que la France va suivre des modèles un peu plus vertueux comme l'Allemagne et l'Angleterre? Pour l'instant, on n'en sait rien. La seule chose qui est inquiétante, c'est que la France semble être investie par des actionnaires qui viennent, qui sont un peu en train de la démanteler, mais en même temps, ça propose du meilleur jeu. C'est vraiment essayer de... Il y a ces rumeurs de Manchester United aussi, mais enfin, en gros, il y a trop d'inconnus. Pour répondre à ta question, c'est possible que le Paris Saint-Germain devienne un club qui est dépassé. C'est tout à fait possible. Les Qataris semblent exprimer une certaine lassitude. C'est même aller jusqu'aux mots parfois, ou en tout cas des mots en off. Maintenant, Paris reste une marque, reste super importante pour les Qataris en soft power. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de faire? C'est à mes yeux insondable. Et s'ils ont encore envie que la marque Paris continue de briller et que Paris reste un beau joyau qu'ils ont envie de présenter en écrin quand ils vont faire des négociations avec qui, que sais-je, sur quoi, et ben Paris continuera d'avoir cette aura financière à défaut d'avoir une vraie aura. Mais si effectivement ils se lassent, qu'ils se disent bah, le joujou c'est United. Et que d'une manière générale, la France qui est de plus en plus vendue à des investisseurs, c'est tout à fait possible qu'on assiste après une toute légère remontée de la qualité du jeu en France à une très sérieuse baisse, et c'est tout à fait possible. C'est juste trop tôt pour répondre à cette question.
Ouais, c'est une question délicate. Après, j'avoue que j'ai du mal à me projeter, à voir le PSG faire comme le Milan. Le Milan, il y a quand même eu un contexte. Il y a eu des gros problèmes financiers. Il n'y a pas eu de quoi se retourner. Il n'y avait pas le pouvoir qu'a les Qataris financièrement. Il y avait des problèmes aussi en Serie A. Le championnat dégringolait un peu. La Juve se mettait à surdominer, si je ne me trompe pas. Donc, je pense pas que le championnat, même s'il y a du, au contraire, si le championnat devient, s'il y a des investisseurs comme Ineos à Nice, s'il devient encore plus compétitif, s'il y a des joueurs, des grands joueurs qui viennent et qui restent dans ces clubs-là, nos jeunes meilleurs joueurs et qui restent dans le championnat, bah, au contraire, ça peut profiter au PSG. Ça veut dire que bah, le niveau va augmenter, que d'autres joueurs vont venir, que d'autres grands joueurs auront envie de venir au PSG également, que des jeunes voudront rester dans le championnat. On a également un vivier extraordinaire de joueurs français, de joueurs en Ile-de-France. Donc, tu as de quoi voir venir les futures années. Et puis, mine de rien, d'avoir eu, comme j'avais déjà dit une fois, d'avoir eu toutes ces stars au Paris Saint-Germain, fait que je pense que les générations à venir, qui ont aujourd'hui entre 10 et 16 ans, qui découvrent le foot, ou qui se mettent au foot, ou qui rêvent de devenir professionnels, bah, mine de rien, ils ont envie de jouer au PSG, ils ont envie de jouer avec ces joueurs-là, ou de continuer l'histoire. Qui a pu où ont pu jouer leurs idoles. Donc je vois pas le PSG vraiment dégringoler. En plus, bah, si on parle de Super League et si elle voit le jour un jour, bah, le PSG sera dedans. Donc ça fait encore de grands joueurs qui peuvent venir au PSG. Même si on est vendu par les Qataris, on aura forcément un racheteur riche. Donc non, je vois mal le PSG dégringoler quand même.
Alors, en fait, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il va dégringoler, mais je pense que tu as quand même fait le choix de la lecture optimiste.
Ouais.
Il est en effet possible que les Qataris, tu vois, tu cites Ineos, mais Ineos, c'est un Ineos parmi 100 000. C'est un Ineos, c'est, tu, quel que soit l'investissement, c'est tourné vers la performance tout de suite et la recherche de la performance, et en plus en donnant le temps, parce qu'il y a cette manière de pratiquer le soft power qui est très différente des Qataris, mais c'est aussi une forme de soft power, c'est un soft power industriel, par en mettant l'image en avant avec la qualité de ce qu'ils font, et des investisseurs comme Ineos, il n'y en a pas tant, et il y a aussi des investisseurs requins qui investissent en Ligue 1, et il est possible que ça tourne comme tu le dis, mais il est possible que ça parte aussi dans un sens très différent, et c'est juste vraiment trop tôt pour le dire. Je voulais juste réagir à un truc que dit Vincent, décidément. Les Qataris vont essayer de trouver une solution pour le FPF, un nouveau contrat de sponsoring. Il faut quand même se rappeler que la première fois qu'on a eu une amende vis-à-vis de l'Europe, c'était parce qu'à cause du fameux contrat qu'on avait avec QSI, je crois, ou je ne sais plus, ou non, Qatar, enfin, je ne me souviens plus exactement l'entité où on avait un contrat complètement gonflé. Donc, les contrats gonflés, c'est mort.
Ou Qatar National Bank, non ?
Oui, voilà, QNB. QNB, tout à fait. Et les contrats gonflés, bah, c'est mort, et donc ça n'arrivera plus de cette manière-là. On aura des contrats par rapport à notre valeur, et pour ça, on peut en avoir plein. Mais on est déjà bardé de contrats, en fait. Publicitaire.
Ok, bah, écoutez, on va essayer de rester encore 10-15 minutes avec vous. Il y a plein de questions que j'ai mis de côté, on va essayer d'y répondre. Tout à l'heure, vous nous avez demandé, est-ce que c'est impossible d'acheter Osimhen et Bernardo Silva si on gagne que si on n'a que 40 millions pour recruter ?
Bah oui.
Ça paraît compliqué forcément, mais moi ça me paraît plus faisable déjà que bah déjà Bernardo Silva, parce qu'il lui reste un an de contrat, donc ce ne sera pas forcément excessivement cher.
De Laurentiis au Siemens, ça pèsait 200 millions. Quoi.
Enfin, complètement. Complètement. Mais ce qui paraît plus faisable, dans ce que je veux dire par là, c'est ce qui paraît plus faisable par rapport à Kim, c'est que ces deux-là, tu peux voir avec des échelonnements, des paiements échelonnés. Tu peux payer l'année d'après, tu peux trouver des arrangements. Alors que Kim, si tu fais péter la clause, c'est tout de suite. Mais Osimhen, personnellement, j'adorerais, mais ça me paraît très très compliqué. Pour Colomouani, c'est pareil. Après, pour Bernardo Silva, je pense que c'est beaucoup plus jouable. Campos le veut depuis un moment et il arrive à un an de la fin de son contrat. Donc à ce niveau-là, pour moi, il viendra cet été, j'en suis certain.
Pour Bernardo Silva, ce serait la vraie, vraie, vraie bonne nouvelle, parce que tu as un joueur qui peut jouer milieu et qui peut jouer ailier. Il est tout aussi performant dans les deux postes. Alors après, tu vois, tout à l'heure, on parlait du truc moi qui me fait rêver, où tout à coup, tu as la charnière. T'as la charnière Pau Torres, Minje, voilà, Kim d'un côté et puis Skriniar d'un autre, et tu pourrais limite faire un truc méga risqué, mais qui pourrait être excitant, c'est Verratti qui retrouverait son niveau, et Bernardo Silva à côté dans un milieu à deux. Alors c'est un peu risqué pour le coup, c'est un peu risqué, mais avec la charnière que t'as, tu peux te permettre quelques risques, et voilà, Bernardo est un peu... Mais pour tout le reste, il peut le faire. Il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer ailier. Limite, pas tout à fait attaquant, mais pas loin. C'est un délice de joueur, et si on le fait, c'est génial. Mais pour Osimhen, il faut arrêter de rêver. C'est un joueur que toute l'Europe a les yeux dessus, et il est détenu avec un contrat avec une durée conséquente par un président qui négocie comme un raccro et qui va tout le temps obtenir le plus. S'il y a un club qui arrive à attirer Osimhen à moins de 150 millions, je serais très surpris. Donc avec 40 millions...
Aller en première ligue, j'en suis certain.
Oui, oui, et ça sera 150. Hein. Ça sera 150, Osimhen.
Autre question, on nous a demandé est-ce que Diallo il va revenir. Oui, il est sous contrat, Leipzig ne va pas le garder, donc il va revenir. Ça peut-être une bonne chose, peut-être pour backer Nuno Mendes. Parce qu'on a vu que Bernat, cette année, c'était un peu compliqué. Beaucoup compliqué.
Pour moi, Diallo, justement, il faut profiter de sa valeur, le vendre 10-15 millions.
Oui.
C'est un joueur aussi qui plaît beaucoup. Donc, c'est bien beau d'y penser en backup de Nuno ou même en backup du central gauche. Mais Diallo, il se blesse énormément. Donc, à un moment donné, personnellement, je préfère prendre un libre comme Ndika ou je préfère prendre un libre à gauche comme Grimaldo. Mais pour moi, Diallo, il faut vendre. Voilà, faut vendre 10-15
millions. Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais je partais du principe qu'on n'aurait pas réussi à le vendre. Mais oui, je suis tout à fait d'accord.
Oui,
s'il y a 9,
on récupère que Skriniar et qu'on n'a que ça comme centrale qui arrive cet été, moi je le garde. Hein, parce que pas en backup de Nuno, hein, en backup charnière. Parce que Skriniar, il jouera à droite et il aura son backup qui sera Marquis. Marquis sera à gauche quand Skriniar sera disponible. Mais à gauche, vous imaginez que Presnel Kimpembe revient, il n'y a rien qui le dit, et il n'y a rien qui le dit qu'il retrouve son niveau avant une bonne période. Donc le Presnel Kimpembe, il ne faut pas l'attendre, en fait, je pense sincèrement.
Alors, après, faire sans lui.
Et voilà, et si tu fais sans lui et que tu n'as recruté personne, tu as besoin à ce moment-là de Diallo. Même s'il se blesse beaucoup, je suis d'accord avec toi, même si machin, même si etc. Mais si tu ne recrutes que Skriniar, Juste numériquement, tu as besoin de lui.
Ouais, c'est pour ça que personnellement, je préfère lâcher Diallo, récupérer de l'argent et prendre Ndicka libre, tout simplement.
Alors, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Vous pensez quoi du futur format de la Coupe du Monde des clubs? Ça
Pour moi,
va
c'est une
faire
bonne
beaucoup de
chose.
matchs. Ça va être très long.
Pour moi, c'est
Ça.
non, pour moi, c'est une bonne chose parce que mine de rien, c'est une fausse idée. Ça rajoute qu'un seul match pour les équipes. Donc bon, voilà, un match, ça va pas être la mer à boire. En plus, c'est un match de Coupe du Monde. Tout le monde a envie de jouer des matchs de Coupe du Monde. Donc rajouter un match de Coupe du Monde pour les joueurs, c'est pas comme si tu rajoutais un match amical, tu vois. Donc c'est beau. Et puis ça fera participer encore plus de pays. On voit que pour des pays, c'est quand même un sacré moteur financier, et même pour l'allant du pays, la politique, etc., etc., le peuple. Donc pour moi, non, pour moi, c'est une très bonne chose. Et puis mine de rien, ça ne va pas changer grand-chose, même au niveau des pays. C'est surtout au niveau du continent africain, où tu as quand même 5 places en plus, si je ne me trompe pas. Mais tu ne vas pas te retrouver avec la Namibie. Tu vas jouer, il y aura l'Algérie en plus, la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes en fait ceux qui ne sont pas passés aujourd'hui, bah, tu vas rajouter l'Italie et la Norvège, ou l'Italie, la Turquie. Du côté européen et africain, tu vas rajouter l'Algérie, la Côte d'Ivoire, des pays comme ça. Tu as quand même des gros pays en plus. Il n'y a que dans la zone Asie où tu vas te retrouver, ou la Océanie, où tu vas te retrouver avec la Nouvelle-Zélande. Mais globalement, tu auras quand même une Coupe du Monde très compétitive. Tu rajoutes qu'un seul match en plus et c'est un match de Coupe du Monde. Donc les joueurs, je pense qu'ils sont quand même très contents. Et voilà,
Réco,
je trouve que moi, c'est une bonne chose, tout simplement.
je crois qu'on n'a pas répondu à la question parce que il me semble que j'ai dit la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, c'est pas grave.
Ah merde,
Passons.
oh, bah, la Coupe du Monde des clubs, pour moi, c'est une mauvaise chose. Ouais.
Qu'est-ce que tu as
J'avais
dit?
des trucs à répondre sur ce que je disais Réco, mais bon, si c'est pas le sujet, je vais me retenir, mais je suis pas d'accord avec lui pour le coup. Mais bon.
Si on ne peut pas acheter un bon remplaçant, autant garder Messi. Je pense que vous savez qui a posé cette question.
Ah oui, c'est Vincent, évidemment.
C'est Vincent, c'est Vincent.
Mais Messi est délicieux, hein. Messi est délicieux, mais le seul problème, c'est qu'il est délicieux 5 minutes par match et c'est vraiment plus assez. On est un joueur qui. Et c'est paradoxal cette saison. On s'est retrouvé avec des matchs où il nous a sauvés littéralement, un peu comme Kylian Mbappé l'avait fait la saison dernière, où il a gagné des matchs à lui tout seul presque. Mais il ne le fait pas assez de matchs et sur l'ensemble des matchs, il ne le fait pas assez de fois dans le match. C'est un excellent joueur, mais il n'a plus le rendement qu'il pouvait avoir avant. Et la question avec Messi, et elle se pose avec Paris, c'est est-ce qu'il y a eu des moments où il a eu envie? Tu le sentais qu'il avait envie, mais est-ce que dans l'ensemble, et est-ce qu'à l'heure actuelle, il a encore envie de se battre pour ce club? Il y a eu des rumeurs comme quoi il est parti de l'entraînement. Parce qu'il ne comprenait pas comprenait pas ce qu'on lui demandait. Galtier, en gros, alors c'est des rumeurs, mais qui sont des rumeurs quand même persistantes. Et on sait à Paris que les rumeurs persistantes, ben, elles ne viennent pas de nulle part. Et souvent, elles racontent des trucs qui sont produites. Il y a vraiment une problématique d'envie avec ce joueur et une problématique de rendement. Alors après, je suis d'accord, hein, c'est un délicieux joueur. Mais ben, par rapport au message, à Barcelone aussi, il ne courait jamais. Mais à Barcelone, il était décisif 5 fois par match, il faisait 8 accélérations par match, enfin même plus, beaucoup plus, il faisait une vingtaine d'accélérations par match, il marquait 4 buts par match ou passes décisives par match, peut-être pas en moyenne, mais c'était des stats absolument folles. À un moment, on était tous fantasmés parce qu'on avait l'impression que le joueur se réinventait et tout, et on a tous entretenu cette musique. Mais les matchs qui ont suivi, bah, il a été en dessous de tout, à te demander si, même s'il avait envie d'être sur le terrain. Il y a un moment, il faut savoir prendre acte et passer à autre chose, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec Drias et je suis d'accord avec le commentaire. Hein. Ça suffit à un moment donné. Et puis même, il va avoir quoi, 35-36 ans. Il a gagné sa Coupe du Monde. Il s'est préparé pour ça, on va pas se mentir. Depuis la Coupe du Monde, c'est même pas le Messi qu'on a vu dans les premiers mois. Donc voilà, ça en dit long. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus motivé. Le PSG ne l'intéresse pas. Il faut savoir même qu'au Barça, il y en a énormément qui n'en veulent pas parce que sportivement, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça en dit long. Tu as déjà un playmaker comme Neymar, tu vas en avoir sûrement un de plus comme Bernardo Silva. Donc je ne vois pas forcément l'intérêt quand tu as besoin d'un numéro 9 et que tu es un attaquant, que tu es dans la merde financièrement et que tu as un attaquant comme Messi qui ne fait pas les efforts, même s'il ne les a jamais faits et qui coûte 40 millions par an. Voilà, pour moi, il faut passer à autre chose, c'est tout. Ça n'enlève en rien ce joueur qui est exceptionnel. Mais pour moi, il est plus compatible avec le PSG, pas compatible avec le PSG aujourd'hui. Il faut savoir dire stop tout simplement.
Il y a juste un problème avec ta phrase, Rico. Quand tu dis on a un playmaker qui s'appelle Neymar et on va en avoir un autre qui s'appelle Bernardo Silva, quand tu dis ça, en fait, il faut quand même être conscient que dans les matchs qui comptent, on n'en aura qu'un du coup. Parce qu'on en a un autre qui n'est jamais là.
Ah, Bernardo Silva fera le boulot, j'ai confiance en lui, en tout cas dans les grands matchs qui comptent, Messi n'est pas là non plus. Donc comme quoi.
Bon, plusieurs choses. Déjà, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit de prendre Eden Hazard au Real et lui donner sa dernière chance. Donc, j'ai appelé Thomas Tourelle et il veut te répondre en live.
Je suis fatigué. Je suis fatigué.
Voilà, Thomas Tourelle t'a répondu. Ensuite, il y a une question que Laurent a posée. Et je vous explique, hier, j'ai parlé avec Basto pendant des heures. On s'est disputé sur le groupe Twitter parce que. On parlait des joueurs de l'équipe de France. Et on disait, si on devait prendre des joueurs de l'équipe de France au Paris Saint-Germain, qui on prendrait?
Toi, tu as
Donc
répondu
lui notamment, il voulait prendre Upamecano. Moi, je préférais prendre Konaté. On était d'accord sur Maignan. Et moi, je voulais prendre Colomboigny, même s'il ne veut pas venir. Et Rabiot. Il y a justement Laurent qui nous posait la question. Il nous disait, à part Maignan, si vous deviez prendre un des joueurs de l'équipe de France, vous feriez all-in sur qui? C'est une très bonne
Alors,
question, Laurent.
personnellement, je pense sur Konaté. C'est le joueur que je préfère, je pense, le plus en équipe de France. Il est juste incroyable. Il t'apporte une stabilité. Il a déjà un énorme leadership. Donc, moi, Konaté, j'aime beaucoup. Après, c'est compliqué d'en choisir un parce que bah, tu as besoin d'un milieu comme Rabiot et tu as
Pas
besoin
mes
d'un attaquant aussi
cadeaux.
comme Colomboigny. Donc, délicat quand même. Hein.
Le côté de la raison du cœur répond au Upamecano, mais le côté du cœur de la raison répond Konaté.
Et qu'est-ce qu'il est fort ce joueur, je suis désolé,
Il
il est
est
trop fort.
inélégant à comparer à Upamecano, mais il est parfait.
En fait, pour moi, j'ai l'impression de voir les défenseurs que je vois quand je regarde les matchs des petits, là, des U15, des U16. J'ai l'impression de voir que des mecs qui ont genre 10 ans, et avec eux, tu as un défenseur central, il a 16 piges. Genre, il a le physique,
Y a de
rien
ça.
à voir avec les
Y a de
autres,
ça.
il
Mais
démonte tout le monde, il récupère tous les ballons, il est facile.
un truc, c'est
Franchement,
qu'il a, il a, il a, il démonté, il en fait une tous les deux matchs. Mais à chacune de ses montées, c'est
T'as vu
quasi.
comment il
Et tu, et
transperce?
tu, et tu, mais tu le vois, et c'est un coureur, il est pataud quand il court. Ça ressemble presque à rien. Mais personne n'est capable de l'arrêter quand il le fait.
C'est
Et à
grave.
chaque fois, c'est la passe parfaite. Mais c'est pas une passe, c'est genre un externe sublime qui. Non, non, c'est juste une passe directe, parfaite, qui t'amène à minima une occasion de but. C'est la définition du stoppeur moderne. Et d'ailleurs, quand on prend Minja, il y a de ça chez Minja. Hein. Il y a vraiment de ça chez Minja. Si
Ouais.
vous adorez Konaté, vous allez le kiffer le joueur en vrai.
Parce que c'est la même capacité de projection.
Alors
Après,
oui, mais c'est aussi rare. C'est aussi
il y
rare.
a un truc en plus, c'est que vous avez vu le Paris Saint-Germain, on a du mal à marquer sans que ça soit Mbappé ou que ça soit Messi. Et ça, c'est le mec, c'est typique Marquinhos à l'ancienne. Le Marquinhos qui n'existe plus, là, qui nous a fait gagner des matchs en Ligue des Champions sur des corners. Lui, sur coup de pied arrêté, que ça soit dans ta défense ou dans la défense
Il
adverse,
est
en
très bon
fait,
de
il
la
te met
tête.
plus de buts à l'adversaire et te retire 3 buts à l'adversaire de ton côté.
Il est très bon
Il
de la
est
tête.
monstrueux.
Très bon de la tête. Après, pas forcément des pieds, hein, mais de la tête, il est très très fort.
Ok, je vais vous élargir le truc sans limite. Là, parce que là, j'ai vu quelqu'un qui parlait de l'équipe bis, de l'équipe de France au Paris Saint-Germain. En fonction de ce que vous avez vu dans l'équipe de France, quel joueur pour vous serait adapté à rejoindre le Paris Saint-Germain cet été?
Et par rapport aux besoins du club aussi et au niveau des joueurs en équipe de France, pour moi, c'est criant déjà Rabiot au milieu de terrain. T'as pas de box-to-box comme ça. Rabiot, il a grandi, il a mûri, c'est devenu un taulier de la Juventus. Il marque, il fait des passes décisives au milieu de terrain, il surnage en Italie, en équipe de France aussi, avec une énorme Coupe du Monde, et il continue avec ses prestations là sur les 2 derniers matchs. Donc, très clairement, Rabiot, en plus de ça, il est libre et tu as des problèmes financiers. Donc à un moment donné, il faut savoir tourner la page. C'est plus le même Rabiot et les coéquipiers disent la même chose. Il y a une interview d'Mbappé qui dit la même chose puisqu'il a joué, je crois, 1 an avec lui, qui dit que Rabiot n'est plus le même. Donc à un moment donné, il faut savoir tourner la page aussi et ravaler sa fierté parce que c'est plus du tout le même joueur. Et puis devant aussi, des Colomboigny, des Diaby, c'est des joueurs que tu as besoin forcément.
Moi, je prends pour le coup. Alors, Rabiot, il faudrait que je réponde, mais j'hésite entre Maignan, mais après, j'ai pas envie de mettre en
Ah
danger
oui,
mes deux
Maignan,
joueurs
évidemment, évidemment.
et ou pas. Parce que ou pas, enfin, on dit énormément bien raison de Konaté, mais ou pas est monstrueux lui aussi. Lui, c'est un orfèvre balle au pied. C'est Voilà, c'est. Et pour Rabiot, enfin, ouais, moi j'ai essayé aussi deux, trois fois dans ma vie de me remettre avec une mec, avec une ex. Il y a deux fois, c'était juste pour un plan cul, ça s'est bien passé. Il y a une fois, c'était pour être sérieux, ça s'est très mal passé. Ce que je veux dire par là, c'est que Rabiot, quand tu le reprends, oui, il a mûri, oui, machin, etc. Mais il va retrouver ses potes, il va retrouver ses habitudes, il va retrouver ses fonctionnements, il va retrouver ses trucs. C'est comme quand tu reviens quelque part, tu retrouves tes habitudes, tu retrouves tout un tas de trucs. Et qu'est-ce qui te dit que ça va pas repartir un petit peu pareil? C'est-à-dire que le côté capricieux qui s'est effectivement un petit peu calmé parce qu'il était loin, parce qu'il pouvait pas l'ouvrir, tout à coup il va pas recommencer à l'ouvrir. Parce que t'as Rabiot qui se pointe, la première fois qu'il est capricieux, il est instalaché par tous les supporters, mais tous sans exception. Et derrière, c'est très compliqué la saison. Et donc, moi, Rabiot, pour moi, ça ressemble à la fausse bonne idée que tout le monde agite, que tout le monde machin, parce que c'est vrai qu'on est en chien et c'est vrai qu'on a besoin de gens gratuits. Mais est-ce que c'est une bonne idée? J'en suis vraiment pas sûr.
Ouais, mais le joueur n'est plus le même. Et quand tu vois la
Oui,
déclaration
c'est un fantasme, ça
d'Mbappé, ça en
aussi.
dit long. Parce que au-delà d'avoir mûri, au-delà de, il y a aussi sa carrière, son envie de gagner des trophées. À un moment donné, pour l'instant, il n'a rien gagné. Il a été champion avec la Juve, mais il n'a pas de Ligue des Champions. Il a perdu une finale de Coupe du Monde. En 2018, il n'était pas là quand ils ont été champions du monde. Donc, tu vois, à un moment donné, c'est un compétiteur et ça se voit parce qu'aujourd'hui, il est très régulier, très sérieux. L'hygiène de vie, c'est plus la même. Les sorties et compagnie, les frasques, c'est plus les mêmes. Il n'y en a plus. Donc, le joueur a changé, a mûri. Et à un moment donné, si il est comme ça, c'est qu'il a envie de gagner des trophées.
Il a
Quand tu
changé.
vois Mbappé qui te dit, quand j'ai un Rabiot derrière moi, ça fait du bien. Et tu vois, genre, pour moi, j'ai 100% confiance et je pense que ce serait une très, très bonne chose.
Il a changé à la Juve, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne retrouvera pas ses habitudes à Paris.
Il y a toujours un doute.
Et sur ces belles paroles, on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi le Paris Central Show. N'hésitez pas à vous abonner. On est également sur Spotify, Apple Podcast, si vous voulez écouter en audio, demain dans la voiture. Ce sera toujours Paris Central, mais sans l'horrible tête de vos intervenants. Voilà, voilà. Salut.